Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 30 août 2024. En direct de Washington, Rosine Mounenzero. Pour commencer, les titres. Au Gabon, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a officiellement inauguré hier la compagnie aérienne nationale Fly Gabon. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, appelle l'Europe à contribuer davantage à la lutte contre l'instabilité au Sahel. L'armée israélienne indique avoir tué 7 combattants palestiniens au deuxième jour d'une large opération contre des groupes armés en Cisjordanie occupée. Parallèlement, Israël accepte des pauses humanitaires à Gaza. Et dans l'autre partie magazine, l'ancien premier ministre guinéen, Sélou Daleyne Diallo, toujours en exil. Plus de 2 ans après avoir quitté son pays, se dit ciblé par la junte militaire du général Mamadi Doumbouya.
Quand est-ce que je rentre en Guinée? Je rentrerai. C'est l'un des partis les mieux organisés en Afrique au sud du Sahara. Dimanche passé, j'ai fait un meeting où j'ai connu la participation de près de 5000 personnes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, a officiellement inauguré hier la compagnie aérienne nationale Fly Gabon, marquant le retour du pavillon national depuis la liquidation d'Air Gabon en 2006. Cette inauguration a eu lieu à la veille du premier anniversaire du coup d'État de 2023 qui a mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo. Le point avec Eric Manilakiza.
Les célébrations marquant cet événement politique majeur ont débuté avec l'inauguration de diverses infrastructures de transport, incluant le baptême d'un des avions de Fly Gabon sur le tarmac de la base aérienne de Libreville. Fly Gabon prévoit de débuter ses vols commerciaux samedi, reliant les principales villes du pays, une étape cruciale pour désenclaver l'intérieur du Gabon. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du rachat de 56% des parts d'Afrijet, la seule compagnie aérienne qui desservait jusque-là l'intérieur du pays. Le général Oligui a aussi inspecté les travaux d'une nouvelle voie de contournement de l'aéroport de Libreville, projet lancé en 2022 pour améliorer la circulation au nord de la capitale. Selon le comité de transition pour la restauration des institutions, près de 600 km de routes ont été réhabilitées en un an. Le réseau de transport au Gabon reste un défi majeur. Les déplacements interurbains sont compliqués par l'état dégradé des routes et le coût prohibitif des vols.
Au Mali, une collision entre un car et un camion jeudi dans le centre du pays a fait 14 morts et 29 blessés, dont 9 dans un état grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué. Cet accident a également causé d'énormes dégâts matériels, ajoutent les autorités. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, selon le ministère. En Tunisie, une quarantaine de migrants et demandeurs d'asile provenant de pays d'Afrique subsaharienne, dont des femmes enceintes et des enfants, se trouvent en grande détresse, abandonnés près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, ont indiqué jeudi plusieurs ONG. Ce groupe de 42 personnes, dont des réfugiés et demandeurs d'asile, dit avoir été expulsé de Sfax, grande métropole du centre de la Tunisie, et amené jusqu'à la frontière algérienne près d'Oum El ARS dans la région semi-désertique de Gafsa, a expliqué Roumdan Benamor de l'ONG tunisienne FTDES. Toujours en Tunisie, le tribunal administratif a annoncé la réadmission dans la course à la présidentielle du 6 octobre de Mondher Zenaidi. Cet ancien ministre du régime Ben Ali est considéré comme un rival sérieux pour le président Kais Saied. Le tribunal a décidé d'annuler la décision initiale de l'autorité électorale après le recours en appel déposé par Mondher Zenaidi. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé jeudi l'Europe à contribuer davantage à la lutte contre l'instabilité au Sahel lors d'une rencontre avec le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a exprimé la volonté d'engagement de son pays dans la région. Le point avec Dili Diko.
La situation au Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié, a déclaré M. Faye à Dakar. La CEDEAO l'a nommé en juillet médiateur dans la crise qui l'oppose au Mali, Burkina Faso et Niger, trois pays qui ont quitté l'organisation sous-régionale. Monsieur Sanchez a de son côté salué l'effort de médiation. Le Sahel revêt une importance stratégique pour l'Espagne et nous souhaitons donc contribuer à sa stabilité et à sa prospérité, a dit Pedro Sanchez. Le Sénégal est la dernière étape d'une tournée de trois jours de Monsieur Sanchez en Afrique de l'Ouest. L'Espagne a signé mardi et mercredi avec la Mauritanie et la Gambie des accords de migration circulaire, mettant en place un cadre concerté d'entrée régulière sur le sol espagnol en fonction des besoins de main-d'œuvre. L'Espagne et le Sénégal sont déjà liés par des accords de régulation migratoire. Monsieur Sanchez a annoncé la signature avec le Sénégal d'un accord qui intègre de nouveaux secteurs d'activité et la formation des travailleurs sénégalais en Espagne.
Un tribunal algérien a remis en liberté jeudi sous contrôle judiciaire étroit Fethi Gharez, une figure de l'opposition qui a été arrêtée mardi dans l'attente de son procès pour outrage au président Abdelmadjid Tebboune, selon son avocat. Son épouse, également militante politique, est poursuivie pour complicité et soumise aux mêmes mesures de contrôle judiciaire. Au Soudan, l'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi les militaires et paramilitaires de commettre des crimes de guerre. Après avoir analysé des images publiées sur les réseaux sociaux, Human Rights Watch a affirme qu'au moins 40 personnes ont été exécutées sommairement et 18 détenus ont subi des actes de torture.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne indique avoir tué jeudi 7 combattants palestiniens au deuxième jour d'une large opération contre des groupes armés en Cisjordanie occupée. Israël accepte aussi une série de pauses humanitaires à Gaza pour permettre la campagne de vaccination des enfants contre la polio. Alexandrine Holognon.
Le ministère palestinien de la Santé a également recensé 16 morts. Cette opération, lancée mercredi par l'armée israélienne, suscite la profonde inquiétude de l'ONU. Son secrétaire général Antonio Guterres a appelé hier à sa fin immédiate, condamnant les pertes de vies humaines, notamment d'enfants. Dans la bande de Gaza, toujours pilonnée par Israël, la défense civile a annoncé hier 8 morts dans une frappe israélienne. L'armée a indiqué avoir au cours des dernières 24 heures tué des dizaines de combattants à Rafah, dans la région de Khan Younes et à la périphérie de Deir al-Bala. Seul répit, les autorités israéliennes ont accepté une série de pauses humanitaires de 3 journées chacune, en raison de plusieurs heures par jour, dans le centre, le sud et le nord de Gaza, pour lancer dimanche la vaccination des enfants contre la polio.
L'Ukraine a indiqué qu'un avion de chasse de conception américaine F-16, précieux matériel de guerre livré récemment par les Occidentaux, s'est écrasé en repoussant une attaque de missile russe tuant son pilote. Le point avec John Lindon.
Selon l'état-major ukrainien, les F-16 ont permis d'abattre 4 missiles russes, mais pendant l'approche de la cible suivante, la communication avec l'un des avions a été perdue. Il s'est avéré plus tard que le pilote a été tué, a-t-il indiqué sur Telegram, sans préciser quand cet accident a eu lieu ni l'identité du pilote. Mais le commandement ouest de l'armée de l'air ukrainienne a indiqué que le pilote Oleski Mes a été tué lundi lors d'une vague de bombardements russes aux missiles et aux drones. L'annonce de cet accident intervient alors que l'Ukraine a annoncé au début du mois avoir reçu ses premiers avions F-16 après plus de 2 ans d'attente. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Kiev a plaidé sans relâche pour que lui soient livrés des avions F-16 de fabrication américaine, considérés comme le joyau dans la liste du matériel militaire que l'Ukraine a demandé à ses alliés.
La vice-présidente Kamala Harris a adopté dans sa première interview de candidate à la Maison-Blanche un ton ferme sur l'immigration et la politique énergétique, tout en jugeant que l'Amérique était prête à tourner la page Trump. Le point avec Gabi Dorsil.
Lors de cet entretien très attendu accordé à CNN, Kamala Harris a accusé l'ancien président républicain d'avoir défendu un programme qui a mis à mal le caractère et la force des Américains, divisant la nation. Sur l'immigration, l'un des sujets favoris de Donald Trump, la démocrate de 59 ans a dit qu'il devait y avoir des conséquences pour les personnes entrant de manière illégale sur le territoire américain. Kamala Harris a également déclaré qu'en cas de victoire en novembre face à Donald Trump, elle n'interdirait pas la fracturation hydraulique, une méthode d'extraction d'hydrocarbures dénoncée par les défenseurs de l'environnement. Revenant sur l'attaque menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, Mme Harris a réitéré son soutien au droit d'Israël à se défendre et a répondu non à la question de savoir si, présidente, elle suspendrait les livraisons américaines d'armes à Israël alors que la guerre à Gaza se poursuit depuis près de 11 mois. Après cette interview, le prochain temps fort attendu de cette campagne électorale hors norme sera le débat entre Kamala Harris et Donald Trump prévu le 10 septembre. La démocrate était accompagnée pendant l'entretien de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
62 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'ont rapporté les exportations de bananes au Cameroun. Selon le site Ecomatin.net, le pays a vendu 98 459 tonnes de bananes sur le marché international entre janvier et juin 2024. La banane de cette région du continent s'est vendue à 1,07 $ par kilogramme durant le second semestre 2024. Le gouvernement malien a octroyé un permis de recherche d'or à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 28 août, l'attribution de la licence permettra à cette compagnie nationale de mener des travaux de recherche en vue de découvrir un gisement économiquement exploitable. En 2022, l'État malien a créé la SOREM en vue de s'impliquer directement dans l'exploitation de ces ressources minérales.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Alors l'Ivoirien Odilon Kossounou, prêté par le Bayer Leverkusen à l'Atalanta Bergame.
Oui, le défenseur international ivoirien, champion en titre de la Bundesliga et champion d'Afrique avec son pays de près de 5,5 millions d'euros, a sorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros. Bonne ou mauvaise affaire pour le jeune éléphant de 23 ans, élément de réponse avec Ahmed Bakayoko, notre confrère de la radio-télévision Albania, notre station partenaire à Abidjan.
Je pense que ce n'est pas un mauvais choix, loin de là, pour supérieur au Bayer Leverkusen en termes de qualité de jeu. Mais pour Odilon Kossounou, c'est une façon pour lui de franchir un palier. Pourquoi ? Parce que à Leverkusen, il était confronté à une rude concurrence, puisque au niveau du secteur défensif, parfois il était relégué sur le banc. Il n'a pas disputé les 38 journées, mais en raison de la qualité du secteur défensif et la concurrence rude qu'offrait cette ligne de jeu-là. Par contre, à Talanta Bergame, il part avec une assurance. C'est sûr qu'il sera titulaire, puisque en termes de standing, étant champion d'Allemagne avec Leverkusen, il arrive en Italie avec un statut. Et c'est bon pour lui, puisque cela va lui permettre d'avoir de la régularité dans le jeu, être régulièrement appelé en sélection, et puis aussi à travers les performances, s'ils sont bons, qu'il enchaîne, de pouvoir, pourquoi pas, augmenter encore sa valeur marchande et faire parler de lui sur le plan européen.
Ahmed Bakayoko, journaliste à la radio-télévision Albayan, notre station partenaire à Abidjan.
Et puis les différentes poules de la Ligue des champions européennes sont connues.
Le tirage au sort de la première phase de la Ligue des champions au tout nouveau format a réservé plusieurs affiches de choix. Le Real Madrid, tenant du titre et vainqueur à 15 reprises, recevra entre autres le Borussia Dortmund du Guinéen Seydou Guirassy dans une réédition de la dernière finale, mais aussi l'AC Milan et ira en file pour y défier Liverpool de l'Égyptien Mohamed Salah. Le champion d'Angleterre Manchester City accueille l'Inter Milan, champion d'Italie et finaliste de l'édition 2023 et voyagera au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, champion de France, ainsi qu'à Turin où l'attendra la Juventus. Avec ce nouveau format, toute formation affronte deux équipes de chacun des chapeaux. C'est donc un parcours sous la forme d'une poule unique au cours duquel chaque club va disputer 8 rencontres, 4 à domicile et autant à l'extérieur. Les 8 premiers de cette poule obtiendront un billet direct pour les 8e de finale, tandis que les équipes classées du 9e au 24e rang devront passer passer par des barrages pour les rejoindre. La suite de la compétition se déroulera dans un tableau classique avec des rencontres aller-retour allant jusqu'à la finale qui aura lieu dans l'antre du Bayern Munich. La première phase, dont le programme sera dévoilé demain samedi, va débuter le 17 septembre et s'achèvera le 29 janvier.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien premier ministre et opposant guinéen Sélou Daleyne Diallo est toujours en exil plus de 2 ans après avoir quitté son pays. Se disant ciblé par la junte militaire du général Mamadi Doumbouya, il promet de rentrer quand les conditions le lui permettront, tout en accusant la junte de manœuvrer pour ne pas restituer le pouvoir aux civils. Il a accordé une interview à Mouamadou Oumfa lors de son récent passage ici à Washington DC.
Oui, un repli peut-être stratégique en attendant de pouvoir entrer dans mon pays en raison d'un certain nombre de contraintes que vous connaissez sans doute. J'ai préféré rester à l'extérieur pour pouvoir continuer le combat. Ceux qui sont rentrés pour essayer de le mener à l'intérieur, ils ont des soucis, ils sont en prison et certains sont peut-être disparus.
Alors, parmi les contraintes que vous évoquez, il y a une affaire qui pèse contre vous. Il s'est dit que lors de la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée, vous étiez ministre des Transports à l'époque, vous êtes soupçonné d'avoir vendu à bas prix la compagnie aérienne et de vous être enrichi par rapport à cette vente. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Est-ce que vous êtes prêt à aller affronter la justice de votre pays?
Oui, ouais, si je suis dehors, c'est pas parce que j'ai peur de la justice. Moi, j'étais plutôt heureux. Je saluais que ce dossier soit envoyé à la justice, même s'il est frappé déjà par la prescription, parce que c'est des opérations de privatisation qui ont été menées sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds en 2002. Et donc, il y a plus de 20 ans que cette opération a eu lieu, mais je n'ai joué aucun rôle. C'est un dossier qui est passé par le Conseil des ministres qui l'a approuvé, parce que c'était une conditionnalité d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE à l'époque. Et le ministre des Finances est seul compétent pour justement la privatisation des entreprises publiques. C'est purement politique en raison de mon opposition ou de ce qu'on a considéré mon empressement à aller aux élections et mes critiques vis-à-vis des dérives de la transition qui m'ont valu cette convocation à la CRIF.
Alors, il y a donc cette transition qui dure selon vous, mais qui forcément arrivera bientôt à terme. On se demande, quand est-ce que vous rentrez et est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle?
Oui, alors, vous dites bientôt, moi je ne sais pas, je n'ai pas de visibilité. Parce que je sais que ce n'est pas en 2020, la junte a dit que ce n'est pas en 2024, ce n'est pas en 2025. Je sais qu'elle veut confisquer, même en organisant si nécessaire, si la pression est forte, une mascarade électorale pour se déclarer, faire déclarer Mamadi vainqueur. Mais ceci dit, le peuple est là. Le peuple veillera au respect de ses droits, je suis convaincu de cela. Et donc, moi, quand est-ce que je rentre en Guinée? Je rentrerai. J'ai le parti, l'un des partis les mieux organisés en Afrique au sud du Sahara. Je vous dis, si je savais, je vous aurais invité nécessairement dimanche passé à New York, où j'ai fait un meeting, a connu la participation de près de 5000 personnes. Et non, la salle n'a pu prendre que 1000, mais il fallait voir tout l'entourage sur la salle. Il y avait du monde. Et les gens ont confiance à mon parti et à ma personne. Et nous allons nous battre pour qu'il y ait des élections libres et transparentes et que le peuple choisisse ses dirigeants. Quel que soit le prix, elle ne se battra. De l'extérieur actuellement, je suis en train de me battre.
L'ancien premier ministre et opposant guinéen Sélou Daleyne Diallo.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Le processus d'enrôlement des électeurs s'achève ce 31 août 2024 au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etundi Esomba, a appelé les Camerounais qui hésitent encore à aller s'enrôler pour participer à cet exercice démocratique. Depuis Washington, il a lancé cet appel au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Oui, je suis content que vous me donniez cette opportunité pour premièrement confirmer que nous avons ouvert au sein de la mission un bureau pour procéder à l'inscription sur les listes électorales de tous ceux qui souhaitent participer à la prochaine consultation. Je pense que l'élection se profile pour 2025. Le calendrier électoral, lui, il est ouvert au Cameroun depuis janvier. Il se clôture, comme vous l'avez dit, au 31 du mois en cours. Nous avons, le gouvernement a pensé inclure la diaspora pour qu'elle soit partie prenante à cette consultation. Et c'est à ce titre que ces bureaux sont ouverts. Et nous avons, nous continuons de sensibiliser les compatriotes qui veulent se joindre aux autres Camerounais pour participer à cette consultation, de venir se faire inscrire. Mais jusqu'à présent, nous ne sentons pas une adéquation entre l'impression qu'on a eue à un moment donné, qu'il y avait cet engouement, et les inscriptions. Donc vous nous donnez là l'occasion de véritablement lancer un appel à tous ceux qui hésiteraient encore de venir le faire, parce que c'est comme ça qu'on participe à la vie et à la construction de la nation.
Henri Etundi Esomba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Mali, les ânes jouent un rôle crucial dans le ramassage des ordures dans la capitale. Mais les experts affirment que Bamako a besoin d'une meilleure infrastructure pour faire face à l'amoncellement des déchets qui envahissent la ville. Alexandrine Rologno.
Yacouba Diallo utilise les ânes Keita et Kanté pour tirer sa charrette dans Bamako et ramasser les ordures dans les rues. La ville croule sous les déchets et les animaux sont en première ligne dans la bataille pour les gérer. Il constitue une alternative plus abordable aux véhicules motorisés. Yacouba Diallo est l'un des nombreux conducteurs de charrettes à ânes qui sont payés directement par les ménages et peuvent gagner jusqu'à 100 000 francs CFA par mois, soit environ 165 dollars.
Je voudrais faire ce travail avec un camion, mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un, alors j'utilise les ânes et la charrette. Je demande aux responsables des déchets d'enlever les ordures de la décharge pour que je puisse faire mon travail correctement. La décharge est devenue une montagne d'ordures.
Voici la montagne d'ordures dont parle Yacouba, la décharge de Badalabougou. Les collecteurs d'ordures et leurs ânes amènent leur chargement ici et dans d'autres décharges aussi encombrées. Bien que le réseau de charrettes à ânes de la ville échappe totalement au contrôle de l'État et puisse sembler désordonné, il existe des systèmes d'organisation qui ont évolué pour gérer les travailleurs. Mamadou Sivibé est l'un des responsables de la décharge de Badalabougou. Il note dans un petit carnet tous les collecteurs qui passent par le site. Selon lui, les charrettes tirées par des ânes sont la seule option possible sur ce terrain.
Nous gérons le site ici, nous gérons l'argent à la fin de chaque mois, c'est notre travail. Comme vous pouvez le voir, les charrettes à ânes viennent ici et nous notons leur nom. L'avantage d'utiliser les ânes pour cela ne peut être surestimé. Nous travaillons avec des charrettes à ânes, une voiture ne peut même pas accéder à cet endroit.
Comme beaucoup de capitales africaines, Bamako a connu une croissance si rapide que les infrastructures n'ont pas pu suivre le rythme de l'exode rural. Les services publics de gestion des déchets sont totalement absents. Le Mali avait conclu un contrat avec une société marocaine, Ozone, qui gérait une partie des déchets de la ville. Mais les autorités maliennes n'étaient pas disposées à payer les frais impliqués, selon l'expert en gestion des déchets et ancien employé de la ville, Bamadou Sidibé. Depuis le départ d'Ozone, le Mali n'a plus aucune gestion publique des déchets et les charrettes à âne sont le seul moyen pour les ménages et les entreprises de se débarrasser de leurs ordures.
L'ensemble des institutions qui doivent intervenir et qui doivent traiter les questions de gestion des déchets ne jouent pas pleinement leur rôle. Je prends au niveau de l'État. L'État doit réaliser des infrastructures. Parmi ces infrastructures, il y a la décharge, la construction des décharges qui doivent recevoir l'ensemble des déchets de la ville de Bamako. Bon, depuis l'indépendance à la date d'aujourd'hui, Bamako ne dispose pas de décharges opérationnelles qui répondent techniquement aux normes.
Dans cette capitale tentaculaire en pleine expansion, un élément de la silhouette clairsemée de la ville se détache du reste, une montagne géante d'ordures qui s'est développée de manière incontrôlée au cours des derniers mois.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'État de Géorgie est l'un des rares à pouvoir décider de l'issue de la course à la présidence des États-Unis qui s'annonce serrée. Scott Stearns, correspondant de la VOA, nous explique ce que les campagnes font en Géorgie et comment ils espèrent remporter cet État clé. Kamala Harris a choisi un voyage en bus à travers la Géorgie pour sa première campagne après la Convention démocrate, en commençant par une répétition de la fanfare du lycée où son colitier Tim Walz a parlé du travail joyeux de leur campagne. Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence.
Je suis reconnaissant de faire partie d'une équipe qui a un très bon entraîneur et votre prochaine présidente des États-Unis, Kamala Harris.
Et Madame Harris a fait l'éloge du leadership des jeunes géorgiens.
Votre génération, tout ce que vous représentez, tout ce que vous avez en jeu, c'est ce qui va propulser notre pays dans la prochaine ère de ce que vous pouvez faire et de ce que nous pouvons être.
Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a été en tête des sondages en Géorgie pendant la majeure partie de ce cycle électoral. Mais avec le retrait de Joe Biden de la course, la plupart des sondages montrent maintenant que Trump et Harris sont à égalité. Le colitier de Trump, J.D. Vance, était en Géorgie la semaine dernière.
Nous allons le faire ensemble, mais seulement si vous nous faites franchir la ligne d'arrivée en Géorgie. C'est l'un des États les plus importants de l'Union.
Vance et Trump font campagne principalement sur ce qu'ils disent être des échecs en matière de politique économique et d'immigration, dont M. Trump a dit aux électeurs de Géorgie qu'il devait être imputé à Mme Harris. Donald Trump, candidat républicain à la présidence.
Avec votre vote, l'inflation va s'arrêter et les étrangers en situation irrégulière seront refoulés. Ils n'entreront pas et nous devons les arrêter. Vous avez vu ce qu'elle a dit maintenant? Oh, nous avions une très bonne frontière. Oh, super. Ils avaient la pire frontière de l'histoire du monde.
L'obtention par Trump de vote républicain en Géorgie est compliquée par sa dénonciation répétée du populaire gouverneur républicain de l'État, Brian Kemp, qui a été élu il y a 2 ans malgré un défi primaire soutenu par Trump. Au début du mois, M. Trump a blâmé à plusieurs reprises M. Kemp et Brad Raffensperger, secrétaire d'État de la Géorgie, pour sa défaite en 2020. Écoutons encore Donald Trump, candidat républicain à la présidence.
Raffensperger et Brian Kemp, votre gouverneur, que j'ai fait élire d'ailleurs et qui, sans moi, ne serait pas votre gouverneur. Je pense que tout le monde le sait. C'est une personne très déloyale. Oui, en effet, très déloyale.
Alors que les sondages se resserrent en Géorgie, Trump a utilisé son site de médias sociaux la semaine dernière pour remercier Kemp pour toute son aide et son soutien en Géorgie. Monsieur Kemp doit co-organiser une collecte de fonds pour Monsieur Trump à Atlanta jeudi. L'année dernière, un grand jury de Géorgie a inculpé Monsieur Trump et certains de ses alliés pour avoir tenté d'interférer illégalement avec les résultats des élections de 2020 dans cet État. Cette semaine, les avocats de Donald Trump ont de nouveau demandé le rejet de ces accusations, dans une affaire qui ne sera pas jugée avant le jour de l'élection. La commission électorale de l'État de Géorgie a approuvé lundi de nouvelles règles qui, selon les critiques, pourraient perturber la finalisation des résultats des élections de novembre dans l'État. Deux membres du Conseil ont voté contre le changement. Les trois membres du Conseil qui l'ont adopté ont tous été nommément salués par Trump ce mois-ci comme, je cite, « des pitbulls qui se battent pour l'honnêteté, la transparence et la victoire ».
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Munezero à ce micro, à la mise en onde, Firmin Koyaweda. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée. À l'écoute.